Normalement, il y a le pantalon et la calotte. Mais bon, c'est quand même assez épais, hein. C'est vrai que là-bas, il faisait quand même 36-37 degrés, très chaud, mais on avait autant d'eau qu'on voulait, c'était bien. Donc, comment on en est arrivé là? C'était qu'au mois d'août, que j'ai quand même revu le SMS, un matin dans la prière, je sais pas pourquoi, mes pensées, le Seigneur dirige mes pensées sur la Côte d'Ivoire et sur le frère Brahima. Et moi, c'est très simple. Maintenant, je ne me pose pas 50 000 questions. Quand le cœur, il est saisi, ça vient de Dieu. Ça ne peut pas venir de l'ennemi. Donc, j'ai dit, c'est très simple, Seigneur. J'envoie dans la foulée un SMS à Brahima. Selon sa réponse, je sais si c'est le temps ou pas. Ça n'a pas tardé à midi, alors qu'ils ne sont pas focalisés sur nous. À midi, je reçois un SMS de Brahima qui me dit, je serais ravi de vous recevoir, enfin, de te recevoir, parce qu'à ce moment-là, j'étais tout seul. Et puis, donc c'était une confirmation. Après, on a prié et c'est ma tendre épouse qui a reçu de Dieu de me faire accompagner par Philippe. Donc, de ce fait, on y est allé. Donc, on devait aller normalement au mois de janvier, mais c'était la CAN, truc de foot. Donc, il valait mieux pas y aller à cette époque-là, parce que là, ils sont aussi pays de foot. Donc, on y est allé au mois de mars. Donc tout était bien préparé. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, donc moi ça m'a changé, parce que la dernière fois, ça faisait 30 ans que j'avais pas remis les pieds. Et à l'époque, on voyageait, on mettait de là où on était, on dormait dans une cité qui s'appelait Yopougon, c'est la dernière église qu'on a vue. Puis quand on allait à Cocody au centre, on mettait un quart d'heure. Maintenant, on met une heure et demie. Ça circule sans arrêt, il y a du monde. C'est blindé, mais il travaille, il se repose jamais. Il ne se repose jamais. Il travaille le dimanche, le samedi, toutes sortes. Alors, 7 jours sur 7, ça circule sans arrêt. Il y a des embouteillages de partout, les contresens et tout ça. C'est la vie magnifique. Alors lui, c'est 4-4. Lui, il s'adapte dans toutes les situations. J'ai été épaté par Philippe, autant au niveau comportement zen. D'ailleurs, la première chose que dit Brahima, il dit, c'est un homme positif. Et je vous expliquerai qu'est-ce qui est arrivé dans la foulée. Il s'adapte à tout, il est tranquille, serein. Brahima était fatigué, il dit, prends la voiture. Alors, c'est un gros 4x4. On aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie, à travers les voitures. Parce que là-bas, les contresens, et celui qui est à gauche pour tourner à droite, c'est normal. Et personne crie. Personne dit rien. Ils sont cool, ils calmes, ils sont habitués, c'est leur vie. Et puis donc, quand on est parti à Gagnoa, il est vrai que j'ai dit, Seigneur, Gagnoa, pourquoi tu insistes sur cette ville, Gagnoa? Et puis c'est surtout le Oa. C'est le mot Oa qui me perturbait, enfin quelque part dans l'esprit, prophétiquement, ça voulait dire quelque chose. J'étais sûr que ça voulait dire quelque chose, donc qu'est-ce que je fais? À un moment donné, donc Philippe prend la parole et juste il est présenté par Brahima comme étant un homme positif. Il lui donne le micro, 5 minutes après, pouah, tout saute, tous les plombs sautent, il était tout seul avec son micro, personne n'entendait rien du tout, il ne s'est pas démonté. Pour une première, à sa place, j'en connais beaucoup qui auraient paniqué, qui auraient sué, transpiré. Lui, il n'a pas bronché. Il a continué dans l'esprit et il s'est fait entendre, alors qu'il n'a pas spécialement une voix forte. Tout le monde a entendu parce qu'après les gens ont été encouragés par ce qu'il a dit. Donc forcément, c'est qu'il a été entendu. Donc je prends le micro derrière lui. Alors au départ, c'était pas voulu qu'il prêche souvent. Et là, on s'est mis d'accord avec Brahima et on a laissé le temps de parole autant à Philippe qu'à moi-même. Il fallait qu'il s'exprime, il fallait que Philippe puisse faire un marathon. Il n'a jamais été perturbé. Tu t'es jamais. Parce que sur un thème, prêcher 7 fois, sans se répéter. Prêcher sur un thème 7 fois, sans se répéter, parce qu'il a 2 ans de conversion. Donc je me suis dit, moi, à son époque, moi, je. Bref, il m'a épaté. Il fallait que je le dise parce que c'est un cadeau. Et donc après, je prends le micro parce que c'était à mon tour de prêcher, puis donc je reviens sur le Gagnoa, je dis Seigneur, et je m'arrête. Donc il y avait, alors c'est très protocolaire, hein. Vous aviez 250 personnes devant, une énorme place, donc moi ça me permettait de bouger en tous les sens, j'étais très très avec les gens, au milieu des gens, et je me retourne, il y avait tous les pasteurs, et je leur dis, est-ce qu'il y en a un qui peut me traduire en ivoirien dans sa langue? Oua. Et alors tout le monde parlait en même temps, mais moi vu que je suis bouché, tout le monde parle en même temps, et en fait ça veut dire ta famille, ta, comment il disait, tes parents, ça veut dire ta famille, tes parents. Et Seigneur me dit, ben non, fais la relation, gagne ta famille, gagne tes parents, gagne Oua. Et quand ils ont entendu ça, bon, c'est parti en live. Alors déjà, 2 heures, parce que là, quand vous avez vu les chants, c'était le début. C'était pas plein. Après, bon, ça commence à 9h, mais à 9h30, c'est blindé. Et pendant 2 heures, ils nous ont épuisés. Mais moi, je voulais être avec eux. Donc, je dansais avec eux, mais au bout de 10 minutes, eh ben, parce que moi, mes jambes, elles tremblaient sans que je fasse comme eux. La chaleur et tout. Donc, on a pu faire ce qu'il y avait à faire. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une petite anecdote sympa. Dans l'esprit, Seigneur, donc en fait, je me suis lâché prophétiquement. Donc lui, il a posé tous les fondements dans l'enseignement. C'était très très bien parce qu'il me précédait. Donc il posait les fondements. Tout était bien structuré, bien une bonne base. Donc on s'appuyait dessus. Après derrière, eh bien, le Saint-Esprit, il faisait autre chose. Et puis, je fais un appel concernant les leaders. Les pasteurs, parce qu'en fait, beaucoup d'autres églises nous avaient rejoints, et même d'autres assemblées hors l'église Amen. Il y avait les assemblées de Dieu, il y avait eu, bon, enfin bref, d'autres personnes, parce qu'ils travaillaient en collaboration, étaient là. Donc, on commence à prier pour les différents pasteurs, épouses et époux. Alors, ils étaient une quinzaine comme ça. On prie, alors c'était quand même le soir, c'est la fin. On prie. Et puis, quand je regarde, je dis, mais il me semblait qu'il y avait 15 personnes, j'en renvoie encore 15 autres. Donc, je lui dis, ah bon, on continue à prier, donc il est venu aussi prier avec moi. Mais après, il y en avait 30, 50, 60, 100. J'ai dit, mais ils n'étaient pas autant que ça, les pasteurs. En fait, ils passaient, il y avait une porte ici. En fait, ils étaient intelligents, ils sont sortis par là, ils faisaient le tour, dehors, ils revenaient, puis ils se mettaient dans la queue.
Ah ouais.
Pour qu'on prie pour eux. Et l'anecdote finale, c'est qu'il y avait plein d'enfants, 9, 10 ans. Et la maman, après qu'on ait fini, qui nous sert à manger, elle me dit, il y a mon fils, il est heureux, heureux, il devait avoir 10 ans. Mon fils, il est heureux. Elle me dit, maman, il y a un pasteur blanc qui a posé sa main sur ma tête, qu'est-ce que je suis content. Un pasteur blanc qui a posé la main sur la tête. Il était joyeux. Donc on a continué, donc le Seigneur a béni. J'ai eu Brahima qui m'a rappelé hier et qui nous a donné des retours, ils ont tous été encouragés, ils ont eu des réponses à toutes leurs prières et tout, toutes leurs attentes. Alors bien sûr que moi, je n'allais pas bosser tout seul. On a fait le lundi matin, on avait tous ceux qui voulaient nous voir individuellement, venaient nous voir. Alors moi, j'étais assis là, et puis j'ai dit, Philippe, tu vas prendre aussi l'autre côté. Ce n'était pas prévu. Donc il faut bien qu'il bosse quand même. Donc il y avait la queue leu-leu, donc il a pu s'exprimer en tête à tête, encourager en tête à tête, de mon côté pareil. Puis on est reparti donc sur Cocody. Il faut dire que moi, tout avait changé, je ne reconnaissais plus rien. Donc ça, c'est l'église Cocody, c'est là où habite Brahima. Alors c'est plus, on va dire, à Cocody, des gens alors un peu plus intellectuels, un peu plus quartier, un peu plus résidentiel. Mais autant ils avaient une soif. Alors là-bas, vous côtoyez, mais ce n'est pas marqué sur leur front. Mais on était assis à côté d'un magistrat, d'un avocat, d'un procureur. Ils ne s'affichent pas, hein. Ils ne disent pas « Coucou, je suis un tel ». Vous le savez, quand ils viennent, ils demandent la prière. Je dis « Ah bon ?» Bon. Il y a quand même des gens élevés là-bas, hein, dans l'église, hein. Et donc après, on a été aussi à Bobo. Alors c'est tranchant parce que vous avez les églises vous avez de tout. Vous avez des voitures, des 4x4 à des prix faramineux. Puis à côté, vous avez un petit mais ça ne dérange pas. Ils viennent à l'église, ils viennent louer l'Éternel, ils viennent chanter, ils sont demandeurs, ils ont soif. On a pu, autant qu'on pouvait avec Philippe, apporter la parole que Dieu voulait. Et puis donc le dimanche matin, on était à Yopougon, c'est cette première ville où avec Alain on s'était trouvé, il y avait Jacques Dufour à l'époque et Daniel Gadras, notre premier voyage en 93, et c'est là où on avait rencontré Brahima. Il faut savoir que Brahima est devenu un ami parce qu'il m'a réveillé à 4h ou 5h du matin. C'est des anecdotes de Dieu. On dormait, on était ensemble, et j'entendais le matin, clac, 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 clac. J'ai dit, mais c'est quoi ce bruit? Donc je sors, je me réveille, c'était Brahima qui faisait du saut à la corde pour s'entraîner. J'ai dit, mais laisse-moi dormir. Dans ma tête, hein, je ne lui ai pas dit, parce que... Et après, c'est une anecdote, et on est devenus amis comme ça. Et donc, ils se sont occupés de nous de A à Z, franchement. Et donc, on a pu servir. Alors, c'était assez intense, assez fort, parce qu'il y avait une telle pression. Le Seigneur nous portait, mais il y avait une telle pression extérieure. Parce que là-bas, en fait, ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est normal, là-bas. C'est courant, les marabouts, c'est courant. Ça va, ça rentre. Vous êtes assis à côté au resto, à côté de vous, vous avez peut-être un sorcier, c'est pas un souci. Mais c'est pas marqué sur leur front. Mais on sentait de temps en temps des oppressions, l'intimidation, même quelque chose qui était à la limite de vouloir la culpabilité. Et puis, ben, Dieu nous a fait grâce, il nous a porté jusqu'au bout. On a vraiment pu répondre aux besoins des uns et des autres. Voilà, c'était... On savait pourquoi on y est allé. On savait qu'est-ce que Dieu attendait de nous. Et puis, donc, pour conclure, quand le Seigneur m'a dit « tu iras », parce que je lui ai dit « mais sur quoi tu veux que j'apporte ?» Et il disait, en fait, il a inversé la parole de Luc. Luc répond à Jésus en disant « ben, on a travaillé toute la nuit, mais bon, maître, sur ta parole, je jetterai le fil. Nous, je jetterai le fil. » Et là, Saint-Esprit me dit « non, je reprends la main. » Le Saint-Esprit disait, sur ma parole, tout à nouveau, jeter le filet. En fait, il y avait une certaine fatigue qui s'était installée, manque peut-être de résultats, j'en sais rien comment on peut dire ça, peut-être une lassitude, et on était retourné là-bas pour rebooster. Et c'est très simple, je leur disais, c'est tout simple, la barque, ça peut être ton église, ta famille, ton travail, l'école, un endroit où tu te trouves, c'est ta barque. Elle t'appartient, Dieu te l'a donnée, tu es dedans, c'est toi le Pierre, et ton filet, c'est ton don, ton ministère, ta capacité, ton aptitude. Et il fallait qu'à nouveau, ils jettent le filet, c'est-à-dire qu'ils tout à nouveau, ils prennent conscience de ce que Dieu leur avait donné, et de remettre au travail, et de remettre en action ce que Dieu leur avait donné. Donc, ils se sont mis à nouveau à pêcher. Et là, donc, il y a plein de projets qui se remettent en route pour pouvoir tout à nouveau sortir en mer.